Vous écoutez, on lit pour vous.
Nous avons offert 7 500 $ à des personnes sans domicile fixe. Voici ce qu'elles ont fait avec cet argent. Un texte de Jiaying Zhao, Anita Palépu et Daniel Dali Grafstein, paru le 22 septembre 2023 dans La Conversation. L'itinérance est une question très complexe et grandement incomprise. Lorsqu'on entend ce terme, on a tendance à l'associer à la maladie mentale ou à la consommation problématique de substances. Les personnes sans domicile sont largement stigmatisées, déshumanisées et perçues comme peu compétentes et non dignes de confiance. Mais la réalité est bien plus nuancée. Un recensement effectué en 2020 par la BC Nonprofit Housing Association dans la région métropolitaine de Vancouver a révélé qu'il y avait 3634 personnes sans domicile fixe, dont 1029 qui n'ont pas recours à des centres d'hébergement et 2605 qui y ont recours. Seule la moitié d'entre elles avaient des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'itinérance cachée qui comprend les personnes qui dorment sur un canapé chez quelqu'un ou dans leur voiture. Plus une personne reste longtemps sans domicile, plus elle risque d'être confrontée à des traumatismes, à la toxicomanie et à des problèmes de santé mentale. Cette situation entraîne souvent une détérioration de l'état de santé à long terme. Les approches actuelles ne fonctionnent pas, comme en témoigne l'augmentation rapide du nombre de personnes sans domicile. On a démontré qu'il est plus coûteux d'offrir des refuges de courte durée qu'un logement stable. Il est donc impératif de changer notre stratégie. Tenter quelque chose de nouveau. En 2016, nous nous sommes associés à Claire Williams, cofondatrice de Foundations for Social Change, pour élaborer une nouvelle solution. Nous avons effectué un transfert ponctuel de 7 500 $ à des personnes sans domicile de Vancouver. Cette somme forfaitaire, équivalent à l'aide sociale offerte pour un an en 2016 en Colombie-Britannique, leur a donné la possibilité de payer un loyer et de couvrir d'autres frais de subsistance. Le versement d'argent constitue un moyen de permettre aux gens d'éviter l'itinérance dans la dignité. Il nous a fallu 2 ans pour obtenir le soutien d'organismes partenaires et de donateurs. Nous avons d'abord conclu un accord avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour que les bénéficiaires puissent conserver les 7 500 $ tout en restant éligibles à l'aide sociale. Nous avons ensuite travaillé avec la coopérative de crédit Vanchiti pour offrir des comptes chèques gratuits où ces fonds pouvaient être déposés. En 2018, nous avons lancé le premier essai contrôlé randomisé au monde qui visait à examiner les incidences d'un don d'argent sur des personnes en situation d'itinérance. Notre objectif était de commencer avec des personnes devenues sans-abri depuis peu à un moment où elles avaient besoin d'argent pour éviter de rester coincées dans cette situation. Nos participants. Notre équipe s'est rendue dans 22 refuges du Lower Mainland en Colombie-Britannique pour sélectionner des personnes sans domicile depuis moins de 2 ans, de nationalité canadienne ou résidente permanente, âgées de 19 à 65 ans et sans problème grave de toxicomanie ou d'alcoolisme, ni de santé mentale. Notre échantillon représentait 31% de la population des refuges de Vancouver. Au total, 229 personnes répondaient à nos critères. Elles ne savaient rien du programme de versement d'argent. Mais lorsque nous avons essayé de les recontacter pour mener l'enquête de référence, nous n'avons pas pu joindre la moitié d'entre elles parce qu'elles n'avaient pas d'adresse stable, de téléphone ou d'adresse électronique. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu retrouver 114 personnes et avons fini par recruter 115 participants pour notre étude. Dans le cadre de l'essai contrôlé randomisé, nous avons choisi de manière aléatoire 50 participants qui allaient recevoir de l'argent et 65 qui n'en recevraient pas. Nous avons informé les 50 participants du groupe « Avec argent » du fait qu'on allait effectuer un versement seulement après qu'ils ont répondu à l'enquête de référence. Nous n'en avons rien dit aux personnes de l'autre groupe. Nous avons suivi les participants pendant un an afin d'évaluer les effets du transfert d'argent. Nous avons perdu tout contact avec environ 30 % d'entre eux pendant cette période et certains ont déménagé loin de Vancouver. Nous avons proposé un atelier et du mentorat à un sous-ensemble de participants en guise de soutien supplémentaire. L'atelier proposait une série d'exercices visant à les aider à réfléchir aux moyens de retrouver une stabilité dans leur vie. Le mentorat consistait en des rencontres téléphoniques avec un coach certifié, formé pour aider les gens à atteindre leurs objectifs de vie. Comme personne n'avait jamais mené d'études de ce genre auparavant, nous disposions de peu d'éléments pour orienter nos prédictions sur les effets du versement. Mais en nous inspirant des bonnes pratiques, nous avons formulé quelques hypothèses sur le bien-être à court terme et les fonctions cognitives en nous basant sur des études antérieures sur des transferts d'argent. Aucune de ces hypothèses ne s'est avérée exacte. Nos résultats. Ce qui nous a étonnés, c'est l'incidence positive des transferts d'argent. Les gens qui ont reçu une aide financière ont passé en moyenne 99 jours de moins dans la rue sur une période d'un an. Cela s'est traduit par des économies nettes de 777 $ par personne par an. En d'autres termes, l'État et les contribuables ont ainsi économisé de l'argent. Les bénéficiaires de l'offre ont augmenté leurs dépenses pour le loyer, la nourriture, le transport et l'achat d'articles tels que des meubles ou une voiture. Fait important, ils n'ont pas augmenté leurs dépenses en alcool, en drogue et en cigarettes. Cela remet en cause l'idée reçue selon laquelle les personnes sans domicile gaspillent l'argent en alcool et en drogue. De 2018 à 2020, le taux d'inoccupation des logements à Vancouver était d'environ 1 % et le délai d'attente pour obtenir un logement pouvait aller jusqu'à un an pour une personne vivant dans un centre d'hébergement. Néanmoins, près de la moitié des participants à notre étude ont trouvé un appartement un mois seulement après le versement d'argent. Cela montre à quel point ils étaient prêts à recouvrir une situation stable et n'avaient besoin que d'un coup de pouce financier pour y parvenir. En revanche, nous n'avons pas constaté d'amélioration notable en matière de sécurité alimentaire, d'emploi, d'éducation et de bien-être. Cela peut s'expliquer par le fait que 7 500 $ constituent une somme relativement faible dans une ville aussi chère que Vancouver. Le revenu annuel moyen des participants était de 12 580 $. L'argent versé représentait donc une augmentation de 60 %. Malgré cela, ils se trouvaient toujours sous le seuil de pauvreté et étaient loin de pouvoir assumer le coût de la vie à Vancouver. Nous avons également constaté que ni l'atelier ni le mentorat n'avaient eu d'effet positif sur les participants. L'une des raisons est l'engagement. La plupart des participants n'ont pas pris part à l'atelier ou au mentorat après le premier mois. Une autre raison possible est un décalage entre le soutien offert et les besoins des participants. L'accompagnement proposé était ambitieux et visait à clarifier leurs objectifs de vie et à renforcer leur sentiment d'efficacité personnelle. Mais ce dont nos participants avaient besoin, c'était d'un soutien pratique pour obtenir des pièces d'identité, rédiger des CV et postuler à un emploi, par exemple. Quelques ateliers ou du mentorat ne les aidaient pas sur ce plan. Notre étude vient s'ajouter à un corpus mondial de plus en plus important d'études portant sur les versements d'argent qui démontrent la nécessité de rehausser le revenu des personnes marginalisées. Cette étude est un point de départ prometteur qui jette les bases de recherche et de politique futures. Les gouvernements et les experts devraient étudier les transferts d'argent comme moyen de soutenir les personnes sans abri et marginalisées. C'était nous avons offert 7 500 $ à des personnes sans domicile fixe. Voici ce qu'elles ont fait avec cet argent. Un texte de Jiaying Zhao, Anita Palepu et Daniel Dali Grafstein, paru le 22 septembre 2023 dans La Conversation.
Entre la violation et la réclamation des droits des personnes qui résident en campement, à qui la rue? Un carnet rédigé par Caroline Leblanc, Sue Anne McDonald, Isabelle Raffestin, Émilie Roberge et Laurie Bacrow, paru le 11 mai 2023 dans la revue Droits et libertés. Bien que les campements existent depuis des décennies, la pandémie de COVID-19 a chamboulé plusieurs vies qui se sont vues basculer dans une précarité et dans une vulnérabilité sociale et économique importante. Une réalité qui est venue multiplier les visages de l'itinérance et augmenter la visibilité des personnes qui résident en campement. Une réalité qui démontre les lacunes de notre filet social et qui devient ainsi une forme de revendication à l'accès aux droits. Reconnaissance du droit au logement. Rappelons qu'en 2019, le gouvernement fédéral a adopté une loi qui reconnaît pour la première fois le droit au logement, un droit essentiel pour respecter la dignité et le bien-être des personnes. Ce droit est aussi reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Canada a signé et auquel il s'est engagé. Mais qu'en est-il du droit au logement pour les personnes qui résident en campement? Malheureusement, bien que le droit au logement soit reconnu au Canada, l'absence d'une définition ainsi que d'un cadre juridique et politique clair pour mettre en œuvre ce droit est un frein significatif qui ne permet pas à tous et toutes de l'exercer. Cependant, lorsque les personnes dépendent de la rue pour vivre, notre société a des responsabilités à leur égard. Par contre, les différentes instances sont encore réticentes à adopter une approche basée sur les droits lorsqu'il est question de personnes qui résident en campement. Mais qu'arrive-t-il lorsque nos instances n'arrivent pas à répondre au droit au logement dans la forme dite abordable et sécuritaire pour le revenu de chacune d'entre elles et accessible selon leurs conditions? Respecter les droits. Dans une réelle approche axée sur les droits, les instances devraient mettre en place des mesures urgentes pour respecter les droits des personnes qui résident en campement. Il faudrait alors rendre accessible de l'eau potable, des installations sanitaires, une gestion des déchets, ainsi que des ressources et du soutien nécessaires pour assurer leur sécurité, par exemple, et par-dessus tout, une réelle participation dans les décisions qui les concernent. Dans les faits, ce n'est pas la réalité que vivent ces personnes. Elles sont plutôt exposées à de multiples violations de leurs droits, tels que celui au logement, à la sécurité, à la vie et à la dignité. De même, il est d'autant plus important de reconnaître que, parmi ces nombreuses personnes, celles issues des Premières Nations et Inuits sont surreprésentées dues au colonialisme et à la dépossession historique de leurs terres. Avant tout, la répression. Les mesures coercitives pour contrôler la présence des personnes qui résident en campement nuisent à leur sécurité, leur vie et leur dignité. Ces personnes sont continuellement exposées à une répression qui se traduit par une présence policière accrue, des contraventions, des arrestations, des expulsions forcées et la destruction de leurs biens ainsi que leur chez-soi. Ceci est donc le résultat d'une absence de politique coordonnée intergouvernementale pour rendre disponibles des logements adéquats pour tous et toutes et d'un manque de réponse globale axée sur les droits humains. Pourquoi sont-elles exposées à vivre une aussi grande répression? Nous vous invitons à lire les différents rapports sur les campements au Canada qui présentent des études de cas au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Ces exemples, sur les réalités vécues par les personnes qui résident en campement, mettent en lumière l'application des règlements administratifs et soulignent comment l'approche répressive privilégiée ne résout pas les enjeux sous-jacents au campement. Cela dit, le rapport synthèse sur les campements au Canada, ainsi que les études de cas présentées dans les différentes régions, permettent de réfléchir à un cadre sur les droits des personnes qui résident en campement, en plus d'aborder des recommandations spécifiques qui peuvent faire avancer nos réflexions et nos actions vers une approche axée sur les droits humains. C'était « Entre la violation et la réclamation des droits des personnes qui résident en campement, à qui la rue ?» Un carnet rédigé par Caroline Leblanc, Suan MacDonald, Isabelle Raffestin, Émilie Roberge et Laurie Bacro, paru le 11 mai 2023 dans la revue « Droits et libertés ».
Itinérance. L'exemple de Granby. Un texte de Sylvain Martin paru le 6 septembre 2023 dans l'Hôte Journal. Ces dernières années, la ville de Granby a refait une beauté à son centre-ville. J'ai profité des rares journées ensoleillées de l'été pour m'y promener et constater de visu tous les changements apportés. Lors de ces promenades, deux choses m'ont sauté aux yeux. D'abord, la beauté des aménagements apportés au centre-ville. On y trouve un souci évident de faire cohabiter les piétons, les cyclistes et les automobilistes. L'autre chose qui saute aux yeux est, malheureusement, la recrudescence du nombre de personnes en situation d'itinérance. J'ai habité la région toute ma vie et je me rends à Granby régulièrement pour y effectuer mes achats et pour mes loisirs, et je n'avais jamais vu autant d'itinérance. En mai 2023, la ville a même dû présenter une politique pour soutenir et guider les personnes vivant en situation d'itinérance. Celle-ci vise, entre autres, à favoriser la cohabitation sociale entre tous les citoyens de la ville. C'est une approche à plusieurs volets. Il y a eu l'embauche d'une agente socio-communautaire au service de police de la municipalité, puis la réalisation d'une page web afin de renforcer le sentiment de sécurité et permettre aux citoyennes et aux citoyens de mieux comprendre les enjeux reliés à l'itinérance. On a aussi procédé à l'aménagement de deux lieux de tolérance situés dans des espaces verts de la ville. La ville a dû en fermer un à la suite d'un trop grand nombre de plaintes. Les personnes itinérantes peuvent s'y installer jusqu'au 31 octobre. Les seuls équipements qui y sont acceptés sont les tentes et les vélos, et des règles de vie doivent également y être respectées. L'administration municipale travaille également en collaboration avec des organismes de son territoire, comme le comité itinérance du groupe Action Solution Pauvreté, GASP. La ville a également adhéré à l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance, ACMI. Il faut saluer cette approche globale que la ville a prise pour tenter de gérer l'itinérance sur son territoire. Malheureusement, à la fermeture du lieu de tolérance, le problème restera entier. Que faire avec ces personnes itinérantes à l'approche de l'hiver? Un autre beau défi pour les élus de la ville de Granby, un problème dont devraient pourtant s'occuper nos élus à Québec en aidant les municipalités comme Granby. Granby en tête de liste. On a l'habitude d'associer l'itinérance aux grands centres urbains comme Montréal et Québec et non aux villes de moyenne taille en région. Pourtant, Granby n'y échappe pas et je crains que ce ne soit pas demain la veille que le phénomène de l'itinérance se résorbe. Nous avons en place à Québec un gouvernement qui fait la sourde oreille aux appels à l'aide répétés des municipalités. À la base de cette itinérance, il y a le manque de logements. Selon le groupe Solutions Pauvreté, GASP, c'est à Granby, une ville qui compte un peu plus de 70 000 habitants, que l'on trouve le moins de logements abordables ou sociaux. L'année dernière, Green Bay a remporté la triste palme de la plus forte hausse des loyers des logements à louer avec 54 % d'augmentation en un an seulement. Toujours selon le GASP, il faudrait au moins 1 000 logements pour combler les besoins de la municipalité et l'OMH de Green Bay a une liste d'attente d'environ 400 personnes, ce qui laisse présager un sombre avenir pour les ménages à faible revenu. Le GASP soutient que, selon les dernières données de Statistique Canada, près de 4 000 familles de Green Bay dépensent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger. Il y a pire encore, 215 ménages dépenseraient l'entièreté de leurs revenus pour avoir un toit au-dessus de leur tête. Le phénomène de l'itinérance est donc loin d'être résolu. Québec aux abonnés absents. Plusieurs mairesses et maires du Québec sonnent l'alarme auprès du gouvernement Legault et il semble bien que leur cri ne soit pas entendu. Bruno Marchand, le maire de Québec, qui préside un nouveau comité de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, sur l'itinérance, a récemment accusé le gouvernement du Québec d'immobilisme face à l'itinérance. Le maire Marchand a lancé un cri du cœur. Ce sont les villes qui sont prises avec le problème et, pendant ce temps-là, le gouvernement du Québec, il est où? Il ne faut pas se surprendre qu'on en soit rendu là. Nous avons un gouvernement qui a nié l'existence même de la crise du logement pendant tout son premier mandat. Une ministre de l'Habitation qui a tenu des propos qualifiés d'insensibles envers les locataires au mois de juin dernier lors du dépôt de son projet de loi, dénoncé par les associations de locataires. Le ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman, a été interpellé pour venir en aide à la ville de Québec. Le maire Marchand est toujours en attente d'une réponse. Avec une telle attitude de notre bon gouvernement face aux problèmes de logement et d'itinérance, on est loin d'une solution. Si le gouvernement manifestait de l'écoute et de la volonté politique de s'attaquer à la pénurie de logements et, par le fait même, à l'itinérance, le Québec pourrait devenir un exemple en matière de lutte à l'itinérance. Faut-il rappeler que le gouvernement Legault est en place depuis 5 ans, qu'il a les coudées franches avec sa super majorité à l'Assemblée nationale, qu'il a hérité de surplus budgétaires de plusieurs milliards, conséquence de programmes d'austérité des libéraux et d'une situation économique rêvée pour n'importe quel gouvernement? Mais rien de constructif n'est mis en branle pour remédier à la situation. Nada. Des solutions possibles. Pourquoi le gouvernement ne serait-il pas le fer de lance d'une grande campagne d'investissement dans le logement au Québec? Il pourrait, par exemple, réunir les représentants des municipalités, du gouvernement du Canada, de la Caisse de dépôt et placement, des banques, du mouvement Desjardins, des fonds de solidarité de la FTQ et de la CSN, et mettre en place la création d'un fonds québécois d'investissement dans le logement locatif. Ce fonds aurait comme mission d'investir au Québec dans 3 types de logements. Le logement abordable ou social afin de s'assurer que les ménages québécois puissent se loger convenablement pour moins de 30 % de leurs revenus. Le logement pour étudiants, soit des logements à coût abordable, situés près des lieux d'apprentissage post-secondaire. Il permettrait l'accès aux étudiants des régions à un enseignement supérieur. Ce serait également une bonne façon d'attirer des étudiantes et des étudiants étrangers. Les études sont la façon la plus harmonieuse d'intégrer des personnes immigrantes à notre société et d'enrichir notre société avec leur établissement définitif au Québec. Finalement, le Fonds québécois en logement pourrait investir dans les coopératives de logement et en faire la promotion pour aider des ménages à faible revenu à accéder à un logement convenable à un coût raisonnable. Ce grand chantier pour le logement pourrait contribuer à éradiquer l'itinérance et la pauvreté au Québec. Monsieur Legault, je vous ai entendu ce mois-ci annoncer avec fierté un investissement majeur dans une usine de batteries à Bécancourt. Vous aviez raison d'être fier. Les personnes à faible revenu et les étudiants seraient fiers de vous s'ils pouvaient se loger convenablement à coût raisonnable, et le peuple québécois serait également fier de vivre dans un pays sans itinérance. Il n'en tient qu'à vous de vous servir des outils que le peuple québécois vous a donnés 2 fois plus tôt qu'une et de faire en sorte que des villes comme Granby n'aient plus à se doter de lieux de tolérance pour tolérer l'intolérable dans une société riche comme la nôtre. C'était « Itinérance, l'exemple de Granby », un texte de Sylvain Martin, paru le 6 septembre 2023 dans l'Hôte Journal. Ottawa investit 200 millions dans du soutien aux locataires et aux itinérants. Un texte de la presse canadienne, paru le 6 février 2024 dans Le Devoir. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a annoncé que le gouvernement fédéral investirait près de 200 millions de dollars en argent frais pour soutenir les locataires à faible revenu et pour ouvrir davantage de refuges d'urgence pour les itinérants. Ottawa investit ainsi 99 millions supplémentaires dans l'allocation canadienne pour le logement, qui offre un soutien financier aux locataires à faible revenu en partenariat avec les provinces et les territoires. Madame Freeland a aussi indiqué que 100 millions de dollars supplémentaires seraient consacrés au financement d'urgence en hiver pour aider les refuges à créer plus d'espace pour les personnes sans logement. Ces mesures interviennent alors que le gouvernement libéral de Justin Trudeau fait face à une pression croissante pour lutter contre la hausse vertigineuse des loyers et pour aider les municipalités aux prises avec l'itinérance croissante. La ministre Freeland a fait cette annonce aux côtés d'autres membres du cabinet Trudeau lors d'une conférence de presse hebdomadaire à Ottawa. Les ministres dont les portefeuilles touchent à l'économie tiennent des conférences de presse presque hebdomadaires depuis l'automne dans le cadre des efforts du gouvernement libéral pour faire la promotion de politiques publiques qui abordent le coût de la vie. Nous savons tous que le logement constitue actuellement le principal défi au Canada, a déclaré Mme Freeland. C'est un défi au cœur de la vie des gens et c'est particulièrement vrai pour les Canadiens qui sont aux prises avec un loyer élevé. Les données de Rentals.ca et de la Société d'études de marché Urbanation ont montré que le loyer moyen exigé en décembre au Canada a bondi de 8,6% d'une année sur l'autre pour atteindre un niveau record de 2178 $ par mois. C'était « Ottawa investit 200 millions dans du soutien aux locataires et aux itinérants ». Un texte de la presse canadienne paru le 6 février 2024 dans Le Devoir.